Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Damien Leclerc, le directeur général de la Chablisienne. Alors je n'étais jamais allé à Chablis jusqu'à présent et donc du coup je suis super content d'y être allé et d'être allé à sa rencontre. Damien est le directeur général, comme je le disais, de la Chablisienne. Il a un parcours qui est ultra intéressant dans le monde du vin. Ça fait 14 ans maintenant qu'il est directeur général de la Chablisienne. Il nous a fait découvrir Chablis, découvrir son parcours. C'était top, merci à lui et à toutes ses équipes pour leur accueil, on s'est vraiment régalé lors de ce passage à Chablis. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez pas de le dire. Allez voir la Chablisienne, allez voir ce qu'ils font, déguster leur vin évidemment. Et puis surtout, mettez la note de 5 étoiles à ce podcast, rejoignez-moi sur Instagram, je vous dis à très bientôt, salut. Et c'est parti. Bonjour Damien.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. On est à la Chablisienne, évidemment. C'est la première fois que je viens à Chablis, donc je suis super content d'être ici. On est dans un lieu qui est un peu particulier. Alors j'avoue que j'ai pas retenu le nom, ça allait assez vite, mais c'est le
Moulin des Croix. Nous sommes en fait au pied des Grands Crus de Chablis, et cette magnifique bâtisse est propriété du domaine de Château-Grenouille. C'est un endroit extraordinaire qui est entre la rivière Le Serein et entre les Grands Crus.
Et c'est très très beau. Alors on a appris la liste des grands crus de Chablis avant de venir, donc tu pourras pas nous piéger sur les grands crus. On va évidemment parler beaucoup de Chablis, mais avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Mais écoute, oui, avec plaisir. Donc Damien Leclerc, j'ai 48 ans. Je suis originaire de cette belle région de Lyon. J'ai grandi pas très loin d'ici, dans le Tonnerrois. Et puis après, un petit peu comme les compagnons, j'ai fait le tour de France durant mes études. Et puis, j'ai le plaisir de diriger la Chablisienne depuis bientôt 14 ans. C'est beaucoup. Et puis en même temps, c'est passé très très vite parce que c'est une entreprise assez extraordinaire, coopérative, comme tu le sais. Donc la richesse et la complexité est là, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un plaisir et puis une fierté d'être à la tête de ce magnifique fleuron depuis 14 ans.
Alors, du coup, tu mentionnais tes études. T'as toujours su que tu voulais travailler dans le vin ou pas du tout?
Non, absolument pas. Non, c'est clairement le fruit du hasard. Alors, par contre, oui, travailler dans des métiers ou des secteurs en relation avec la nature ou avec les grands espaces, oui. Pendant un moment, j'aurais bien aimé aussi trouver aussi des activités en relation avec la mer, qui est pour moi une passion. Mais non, c'est pas du tout prévu en fait. J'ai eu un cursus assez classique, et puis je suis parti faire mes études à Bordeaux, enfin Annecy, Bordeaux, Nantes, donc BTS, école d'ingé, troisième cycle. Et puis j'ai commencé en fait par le négoce de matières premières agricoles. Je venais de finir quelque chose qui était obligatoire à l'époque, qui était mon service national, que j'avais fait embarquer sur un magnifique bateau de la Marine nationale. C'était une très belle expérience. Et quand je suis descendu de ce magnifique bateau gris, j'avais très envie de rester au bord de l'eau, et donc j'ai commencé à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique. Et puis comme ça se passait plutôt bien, mon patron m'a très vite envoyé au siège à Paris. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. Quand on est passionné par la nature et les grands espaces, c'était trop dur pour moi. Et donc, un peu par hasard, en fait, je suis revenu en Bourgogne et j'ai débuté dans les vins spiritueux au sein du groupe Boisset à Nuit-Saint-Georges.
Et du coup, c'était un domaine, le vin, que tu connaissais pas spécialement. Est-ce que t'avais une appétence déjà pour le produit au départ, ou ça a été vraiment par hasard que tu t'es retrouvé là?
Alors, clairement, ça fait partie des filières que j'ai toujours regardées, puisque quand on est natif d'une région de vignobles, c'est vrai qu'on est forcément un petit peu observateur. J'avais eu l'occasion de faire des vendanges. J'avais quelques amis viticulteurs. J'ai mon oncle qui a été aussi maire de Chablis pendant quelques années. Donc tout cela ne m'était pas inconnu, mais non, j'avais pas forcément d'idées très arrêtées ou préconçues. Mais ceci étant, je suis ravi d'évoluer depuis plus de 20 ans dans cette belle filière au sein de ces activités.
Carrément. Alors du coup, raconte-nous, t'arrives à Nuit-Saint-Georges. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Est-ce que c'est justement une redécouverte ? Quel type de travail est-ce que tu fais à cette époque ?
Alors en fait, j'ai commencé non pas dans l'univers du vin, mais dans l'univers des spiritueux, et plus particulièrement celle des liquoristes, puisqu'en fait, le groupe Boisset à l'époque avait racheté une très belle entreprise qui s'appelle l'Héritier Guyot à Dijon, le spécialiste de la crème de cassis. Et puis derrière cette entreprise, il avait développé un portefeuille de spiritueux. Et donc mon premier job, c'était de travailler plutôt sur des fonctions commerciales en relation avec ces activités, en ayant déjà beaucoup d'autonomie sur un périmètre d'activité assez large. Et puis de belles rencontres, hein, puisque Monsieur Boisset est un personnage assez extraordinaire qui a beaucoup entrepris, qui a très bien développé ses activités. Et c'est vrai que on est à Chablis, pas très loin d'Auxerre, mais à Auxerre, on parle souvent du centre de formation de Giroud, de la J-Auxerre, à la grande époque du club de foot. Mais je dois dire que quand on a la chance de travailler très jeune avec, des patrons exceptionnels, ça permet aussi d'apprendre plus vite, et puis d'avancer, d'avoir des idées. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu cette opportunité, et ça a été un régal pendant 5 années de travailler au sein de cette belle maison.
Ouais, c'est clair. Je pense que c'est un des trucs qui joue énormément, le type de patron que tu arrives à avoir dans tes premières années professionnelles, justement.
Et, oui, c'est clair que ça t'influence beaucoup. Ouais. Quand j'ai commencé dans le trading de matières premières agricoles, j'ai aussi rencontré deux patrons charismatiques. Le premier s'appelait Albert Boisy, c'était un commerçant absolument extraordinaire, et puis qui m'a appris beaucoup de choses aussi fondamentales dans le négoce de matières premières, notamment sur la notion d'engagement, de parole donnée, parce qu'on est sur des secteurs qui sont tout petits avec peu d'intervenants, et ça compte énormément. Et puis Jean Miotte, qui était le directeur général d'Invivo, qui était aussi un grand monsieur charismatique, brillant et très sympathique. Et c'est vrai que oui, de toute façon, la vie, elle est faite de rencontres, et ces rencontres, elles nourrissent, ces rencontres, elles donnent envie d'aller plus loin, ces rencontres, elles donnent des idées. Et puis souvent, ces grands patrons sont aussi quand même des leaders charismatiques exigeants, et donc ça force en fait à évoluer, à avancer et à se projeter avec de bons réflexes et de bons automatismes.
Ouais, c'est clair. Je pense que si je devais me donner moi un conseil à mon moi d'il y a quelques années, ce serait choisir un job plus en fonction des personnes avec lesquelles tu vas bosser qu'en fonction du secteur d'activité ou du type de truc qu'on va te demander de faire, parce qu'en fait, dans tous les cas, quand t'es junior dans une boîte, que ce soit à faire des Excel ou des PowerPoint ou tel sujet, en fait, c'est pareil. Ce qui compte, c'est le niveau d'apprentissage que tu peux avoir avec les personnes qui t'entourent. Mais le message est passé, si mon petit frère m'écoute en ce moment, c'est cadeau. Donc du coup, tu fais ces 5 années à Nuit-Saint-Georges, et ensuite tu rejoins la Chablisienne.
Non, auparavant j'ai eu aussi une autre expérience, toujours en Côte d'Or, du côté de Chagny, Chassagne-Montrachet, au sein du groupe Picard Vin Spiritueux, où j'ai occupé mon premier poste de directeur général pendant un petit peu moins de 4 années. Donc au sein d'une autre entreprise familiale, c'est vrai que voilà, ce qui m'intéressait dans ce job, c'était je dirais cette évolution vers des fonctions de directeur général. J'avais 30 ans, j'étais pas très vieux. En fait, je dirigeais la maison mère à Chagny, la compagnie vinicole de Bourgogne, une centaine de personnes. C'est vrai que quand on a la chance de rencontrer des grands patrons, on a forcément envie d'entreprendre, on a envie d'avancer, puis on a envie aussi, ou pas d'ailleurs, mais moi j'avais envie d'aller plus loin. Et donc c'était effectivement cette première opportunité. Et puis la découverte aussi de la complexité de ce métier, parce que le patron, c'est beaucoup de choses à la fois, et ça fait rêver, parfois on les déteste, parfois... en tout cas, ce sont des fonctions qui ne laissent personne indifférent, on s'imagine beaucoup de choses, et puis finalement, quand on est confronté à la réalité, on découvre, on apprend, mais en tout cas, c'était aussi une belle expérience avec, là aussi, beaucoup de rencontres. Michel Picard également, grand patron charismatique qui est parti de rien, qui a développé ses affaires d'un autre style que Monsieur Boisset, mais en tout cas quelqu'un d'intéressant. Et puis des consultants, notamment un type qui s'appelait Michel Godard, qui a beaucoup évolué au sein du groupe Heineken, donc qui venait des grands groupes et qui m'a apporté aussi beaucoup de méthodes. Donc la vie elle est faite aussi de ces bons moments, et puis parfois aussi de ces moments de doute, ces moments difficiles, parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que la contrepartie du pouvoir, c'est quand même souvent la solitude. Et ça, on l'imagine pas forcément au départ. Et c'est vrai que quand tu gravis petit à petit les échelons, eh bien effectivement, si tu veux rester, conserver en tout cas, je dirais une réelle objectivité, bien sûr qu'il faut travailler avec les équipes, en équipe, mais il faut aussi conserver une petite distance pour garder cette fraîcheur et cet état d'esprit pour prendre les bonnes décisions quand c'est nécessaire.
Je pense que c'est aussi salutaire pour ton équipe, tu vois, d'avoir parfois une petite distance, parce que ton équipe se comporte pas de la même manière s'il y a le boss qui est là ou s'il y a pas le boss qui est là, et du coup il faut aussi savoir faire ça, quoi. Ouais, c'est clair. T'es resté combien de temps du coup chez
Un peu moins de 4 ans, et puis à ce moment-là, en fait, Alain Cornelissens, qui a dirigé la Chablisienne pendant de nombreuses années, s'apprêtait à prendre de grandes vacances. Il préparait son départ en retraite, et donc j'avais été approché par un cabinet qui avait été mandaté pour lui trouver un successeur. Et donc ça s'est fait assez rapidement, et je suis arrivé à la Chablisienne le 1er juillet 2008 pour une période qui aura duré 6 mois en fait de cohabitation avec Alain qui terminait je dirais son passage, qui a été long, hein, à la Chablisienne. Il est resté une quinzaine d'années aussi comme DG, et puis des mois de transmission, d'apprentissage, de découverte, et puis j'ai dû prendre les rênes je crois complètement au 15 novembre 2008. Bon, sachant que, je sais pas si tu te souviens, mais en 2008, on a eu 2-3 petits événements économiques. Ouais, et donc, en fait, oui, je suis arrivé ici 1er juillet 2008, j'avais 35 ans et je suis arrivé avec la crise économique mondiale. Et je dois dire que ça a été quand même un moment assez difficile parce que la Chablisienne, en fait, donc société coopérative agricole, donc 80 salariés, 250 vignerons, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, derrière la Chablisienne, directement et indirectement, ce sont à peu près 1000 familles, en fait, hein, qui vivent grâce, avec, dans la Chablisienne. Donc, c'est clair qu'en termes de pression, quant à la réussite, c'est pas anodin, quoi. Et je dois dire que ce contexte 2008-2009, ça a été quand même très dur. D'autant plus qu'à l'époque, nous étions très dépendants du marché britannique. On réalisait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires au Royaume-Uni. Et c'est clair que le Royaume-Uni a été un des pays qui a le plus dérouillé avec la crise financière de 2008. Voilà. Donc ça permet aussi quand même de jauger en situation de crise, bah finalement, les réflexes, les automatismes, est-ce que tu as pu apprendre avant en termes d'expérience. Voilà. Et je dois dire que c'est vrai qu'être passé par des écoles un peu dures avec ces leaders charismatiques, ça a été finalement une très grande chance parce que je pense que ça m'a permis aussi de prendre les décisions qui s'imposaient dans ce contexte qui était quand même très dur. On a vécu 6 mois consécutifs avec un chiffre d'affaires en baisse de 40%. C'est pas anodin quand même.
Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est clair. J'étais je me souviens de la crise de 2008 mais pour le coup j'étais encore jeune. J'avais quel âge j'avais en 2008? 12 ans, 12 13 ans. Je me souviens de cette crise et je me souviens que c'était quelque chose de grave, mais moi j'en ai pas senti les effets à titre personnel, tu vois, du tout. Et c'est vrai que du coup quand je discute avec des professionnels qui étaient en activité à cette époque, en fait ils racontent tous que moi j'avais la vision d'une crise bancaire et financière, mais en fait un peu lointaine et qui touchait surtout des actifs de pas très grande qualité et bon qui se répercutait un peu sur le reste, mais voilà. Mais en fait c'était une tension incroyable sur les capitaux, une tension incroyable sur la circulation d'argent et donc du coup sur tous les chiffres d'affaires. Donc c'est beaucoup plus impressionnant que l'image que moi j'en avais à force d'en discuter avec des professionnels, ouais. et ça a vraiment marqué les esprits des personnes qui étaient en activité, alors que bon pour moi c'était juste une crise, mais plutôt que j'ai vu dans des bouquins ou à la télé que dans ma vie, quoi.
À nous, de façon très concrète, en fait, on l'a vécu très vite, très violemment, puisqu'en fait notre importateur britannique avait pour banquier une banque islandaise qui s'appelait la Landsbankinn. Okay. Et la Landsbankinn, ça a été la première banque à faire faillite au moment de la crise financière.
Ah oui.
Donc là, je peux t'assurer que on a quand même très vite compris ce que ça pouvait signifier en termes de conséquences, quoi.
Ah ouais, là, c'est clair que tu dois pas rigoler, ouais. Ouais, mmh. Clairement. Quelle différence t'as vu entre le moment où t'es arrivé dans la famille Picard et le moment où t'es arrivé ici à la Chablisienne? Donc on a d'une part un grand groupe familial et d'autre part une coopérative. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué justement au moment de tes arrivées ou des différences un peu marquantes entre les deux?
Alors en fait oui, j'ai été mais plutôt étonné par le fait qu'il n'y avait finalement pas tant de différences. Okay. En fait. Je m'attendais clairement à plus de différences en me disant voilà, c'est une coopérative avec un mode de fonctionnement de coopérative. Et puis en fait, sur le fonctionnement interne de la Chablisienne, pas du tout. Et en fait, ça s'explique assez simplement de par l'histoire de cette entreprise très particulière, puisqu'en fait, la Chablisienne, elle a été créée le 1er mai 1923. Mais il faut savoir qu'à l'époque, à Chablis, il existait deux coopératives. Alors c'est digne d'un film ou d'un livre de Pagnol, hein, puisque bien évidemment la Chablisienne que l'on connaît avait été créée à l'initiative d'un prêtre, l'abbé Balitran, et puis il existait la CAF coopérative de Chablis, qui elle avait été créée par un leader politique qu'on pourrait qualifier aujourd'hui dans le monde actuel plutôt d'extrême gauche. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre 1923 et 1947, j'ai vraiment le sentiment que la mission première de la Chablisienne et de la CAF coopérative de Chablis, c'était d'emporter le combat idéologique.
Ah oui.
Ouais. Et finalement, 47, on sort de la Seconde Guerre mondiale, les deux coopératives sont tellement affaiblies que le Crédit Agricole siffle la fin du bal. les forces à fusionner, et donc qu'on devient à ce moment-là la Chablisienne, CAF coopérative de Chablis, et accessoirement Union des viticulteurs de Chablis. Mais par contre, on inscrit dans le marbre qu'à partir de 1947, on ne fait plus qu'une seule chose, de l'économie. On ne parle plus de politique, on ne parle plus de religion, on ne parle plus de syndicalisme. Et du coup, en fait, très tôt, certes, nous sommes sous statut coopératif, mais c'est avant tout une entreprise avec un fonctionnement d'entreprise. Et du coup, et finalement, tu vois, quand j'arrive, forcément quelques années plus tard, et aussi, enfin, il y a eu un autre élément, c'est qu'en 1947, est embauché le premier directeur général, ce qui est assez rare dans l'univers de la coopération. Alors pour le coup, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est un ancien officier de l'armée de terre, et je pense que sa mission première, c'est de ramener un petit peu d'ordre et de discipline dans cette situation conflictuelle. Et puis, l'autre élément, donc culture économique, et par contre, on s'inscrit dans la durée parce que tu vois, je ne suis que le quatrième directeur général, alors que nous sommes en 2022, donc depuis 1947. Ça veut dire que chacun est resté 15 ans, 20 ans. Pour apporter sa pierre à l'édifice. Mais voilà, donc finalement, pas tant de différence que ça. Oui, effectivement, un conseil d'administration avec les vignerons, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait dans ce conseil d'administration ? On parle des projets, on rend compte sur notre activité commerciale et économique, et puis l'idée, c'est que ça marche, parce que les vignerons sont pas des philanthropes, hein, très clairement, ils apportent effectivement leur production à la Chablisienne, mais en retour, ils attendent un niveau de valorisation optimum. Donc il y a clairement un niveau d'exigence et puis une culture particulière. Voilà.
Oui, et puis de toute façon, dans n'importe quelle boîte, t'as aussi un conseil d'administration ou différentes instances de pilotage de l'entreprise à laquelle tu dois rendre compte et qui sont pas non plus composées de philanthropes, donc
exactement.
En fait, ça change pas grand-chose.
Ouais.
Chaque directeur général qui a passé ici, du coup, est resté, tu disais, entre 15 et 20 ans. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience, toi, il y a 14 ans maintenant, que justement t'allais rester potentiellement 15 ou 20 ans aussi, ou pas?
Alors, tout d'abord, c'est quelque chose qu'on m'a demandé.
Okay.
C'est-à-dire que voilà, si tu viens à la Chablisienne, tu viens pas pour 3 ans. Donc tu t'inscris durablement, parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que dans nos métiers, on est sur des cycles longs. On ne vinifie qu'une fois par an. Donc si clairement tu veux impacter, si tu veux influer, si tu veux faire évoluer, il faut au moins rester une dizaine d'années. Voilà. Donc c'était l'exigence du président qui m'a embauché en 2008, et voilà, je pense qu'il avait entièrement raison. Et puis finalement, le temps passe très vite quand les projets sont là, quand les missions sont riches. Et voilà. Enfin, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais, de continuer d'apprendre, et voilà, tant que je m'éclate, j'y trouve mon compte, quoi. Voilà. Après, effectivement, je suis arrivé là, j'avais 35 ans. Je sais pas si je resterai là jusqu'à la fin de ma carrière, probablement pas, parce qu'il faut aussi parfois du sang neuf, parce qu'il faut aussi parfois des idées neuves. Mais en tout cas, pour l'instant, je dirais que je continue de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et puis malheureusement, on enchaîne aussi des périodes de crise, et dans ces périodes de crise, il faut de la stabilité aussi. Voilà, on est très proche de nos vignerons, et en responsabilité, on peut pas faire n'importe quoi non plus.
Ah, c'est clair. Oui, clairement. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que la Chablisienne, pour les personnes qui nous écoutent? On en a déjà un peu parlé, donc une cave coopérative. Tu nous as raconté un peu le tout début de l'histoire, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous couvrez, combien de vignerons vous avez, qu'est-ce qui fait votre identité, qu'est-ce qui a fait aussi vos valeurs, votre histoire derrière l'entreprise?
Donc la Chablisienne aujourd'hui, c'est une belle maison de vin sous statut coopératif, mais j'insiste là-dessus, c'est vraiment une belle maison de vin avec de belles marques. On a aujourd'hui deux marques commercialisées, donc l'une dans le secteur traditionnel, la Chablisienne, et l'autre en grande distribution, Union des viticulteurs de Chablis. Et donc finalement, sous cet emblème, eh bien, nous fédérons aujourd'hui 250 vignerons, dont 130 dont c'est vraiment l'activité exclusive. Nous vinifions chaque année entre 1100 et 1200 hectares de vignes, c'est-à-dire que nous produisons en moyenne 8 millions de bouteilles. Alors ces bouteilles, nous les commercialisons, cette production, elle est commercialisée intégralement en bouteilles. En 2021, on a réalisé un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros, dont 60% à l'international, à destination de 87 pays. Ça, c'est aussi un point particulier. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que je pense que cette histoire, elle est particulière dans le sens où Finalement, en 1923, quand la Chablisienne a été créée, contrairement à beaucoup d'autres structures coopératives, elle n'a pas été créée pour produire ensemble, mais elle a été créée pour faire du commerce ensemble. Donc l'ADN, le point de départ, c'est avant tout une mission de commercialisation. Et d'ailleurs, derrière toi, tu verras, il y a une belle affiche qui date de 1926. C'est une affiche Lutetia. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle est finalement très ancienne, mais elle reste très moderne aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis l'histoire, elle est un peu particulière, parce que pourquoi la Chablisienne ? Eh bien, n'oublions pas qu'en 1923, finalement, on est très peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale. On est très peu de temps après la fin de la grippe espagnole, puisqu'on sort d'une pandémie. Et finalement, pendant une demi-génération, à Chablis, comme partout en France, eh bien, ce sont les femmes qui portent les exploitations agricoles, puisque malheureusement, peu d'hommes, beaucoup d'hommes, ne sont pas revenus des combats de la Première Guerre mondiale. D'autres sont revenus blessés. Et puis l'histoire commence à en parler un peu plus. Des gens qui sont rentrés traumatisés dans des états psychologiques très dégradés. Et donc il y a une demi-génération où ce sont les femmes. Et donc cette Chablisienne, elle est particulière parce que commencer par une promesse commerciale et créée par des femmes en 1923, pour le coup, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Et depuis, je dirais qu'on a conservé en fait cette forme d'impertinence. Finalement, on est rarement là où on nous attend, et parfois on peut déranger aussi, mais c'est pas très grave. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et puis c'est un petit peu à l'image de nos vins. Nous, ce que l'on recherche, c'est cette belle tension minérale, cette vivacité. Et finalement, cette vivacité, c'est ce qui nous caractérise le plus aussi aujourd'hui, à tous les niveaux et à tout point de vue.
Super intéressant. Vous devez avoir des archives ici incroyables sur ce qui s'est passé dans l'histoire de l'entreprise. Et justement sur ça, et c'est vrai que cette affiche qui est derrière nous est très belle. Pour les personnes qui nous écoutent, on vous mettra sûrement une photo dans l'article ou sur Instagram ou autre pour que vous puissiez aller la voir. Mais ouais, non, c'est très sympa. Et cet emblème là que vous avez gardé, vous avez dû la décliner aussi sur plein de supports, plein de versions différentes avec des artistes ou autres.
Elle a pas beaucoup évolué. Ouais. Elle évolue régulièrement avec effectivement des artistes. Et puis dernièrement, là, depuis quelques années, on travaille avec un calligraphe assez connu qui s'appelle Nicolas Ouchenir. Et qui nous a bien accompagnés sur l'évolution de l'égérie. Donc l'idée, c'est de conserver cette image, conserver cette dynamique, sachant que encore une fois, hein, quand on prend l'affiche de 1926 ou la Chablisienne d'aujourd'hui, très clairement la symbolique, c'est la symbolique de la victoire. Et c'est assez logique et compréhensible quand on regarde cette histoire. Et puis moi, je reste convaincu que pour avancer dans de bonnes conditions, il faut forcément regarder d'où l'on vient. Et on a eu aussi je crois c'est la bonne idée, eh bien, de faire travailler deux étudiants en faculté d'histoire qui ont travaillé sur les archives, justement. Ah, donc il y en a un qui a fait son mémoire sur la partie 1923-1947, et puis un second de 1947 à nos jours. Et donc à partir de leurs travaux, on est en train de travailler sur l'écriture d'un petit livre qui va retracer notre histoire, mais l'idée c'est aussi de retrouver des anecdotes, des moments particuliers, des moments de doute, des moments de joie, pour célébrer l'année prochaine nos 100 ans.
Ah oui, c'est vrai que...
Voilà. Donc ça s'approche à grande vitesse et on est en train de travailler effectivement sur ce projet.
Est-ce que tu as appris des choses, justement, des choses un peu marrantes que tu peux nous partager ?
Des anecdotes, il y en a forcément quelques-unes, dans les plus anciennes. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était quand même cette récurrence des aléas climatiques, en fait, hein, dans les années 1950 à 1970. Aujourd'hui, on se plaint parce qu'avec le réchauffement, c'est difficile, mais on se rend compte que pendant une vingtaine d'années, ça a été très dur. Et finalement, derrière tout ça, a été mis en place aussi un autre élément clé, c'est la prudence en termes de gestion. Parce que quand on est soumis régulièrement à ces périodes de crise, eh bien, pour passer le cap, il faut avoir cette sagesse et cette prudence. Et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et puis plus récemment, j'ai deux souvenirs en tête. Le premier, c'est, je crois, en 2014, quand la Revue des Vins de France nous avait décerné le prix de CAF coopérative de l'année. Donc c'était pour les rugbyman un bouclier de Brennus, un titre de champion de France, c'est plutôt sympa à partager. et puis une belle fierté quand même. Et puis plus récemment avec Vincent Bartement dans le cadre d'un concours britannique qui s'appelle l'IWC International Wine Challenge, on a gagné à 3-4 reprises le titre de meilleur vinificateur de vin blanc. Alors je dirais au monde puisqu'on est confronté au pays du Nouveau Monde. Alors ça c'est sympa parce que pendant très longtemps on nous a expliqué qu'on était devenu has-been en France et que seul le Nouveau Monde comptait, seul le Nouveau Monde fonctionnait. Et donc finalement gagner à 3-4 reprises ce trophée, c'était pour nous quelque chose de génial, tout simplement parce que derrière Vincent, bien sûr, ce sont toutes les équipes, les vignerons, les équipes techniques. Et en plus, c'est vrai que je dirais que cette soirée, c'est un peu comme les Césars du vin, donc il y a quand même aussi une belle théâtralisation. Et c'était vraiment un grand, grand moment d'émotion.
J'ai l'impression dans ce que tu dis, enfin il y a cette partie que tu viens de mentionner sur le prix avec les vins du Nouveau Monde. Tout à l'heure, tu nous as aussi parlé d'une commercialisation à l'étranger.
Oui.
J'ai l'impression que justement l'ouverture au monde, ça joue un rôle important pour toi.
C'est absolument essentiel. Et puis c'est aussi une immense richesse parce que quand on travaille avec 87 pays, il faut imaginer derrière tout ça les rencontres, les échanges. Des visiteurs qui viennent découvrir ce que l'on fait, le plaisir aussi de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de consommation, d'autres régions de production. Et ça, c'est vrai que finalement, il y a peu de métiers dans lesquels on a cette chance. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Malheureusement, je suis très malheureux parce que ces deux dernières années, on a remplacé beaucoup de déplacements par des visios. En fait, on s'est quasiment pas déplacé. On n'a pas reçu grand monde. Mais c'est vrai que cette ouverture sur le monde, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel en termes de richesse, de plaisir, de partage et de temps fort, quoi. Voilà.
Tu voyageais beaucoup justement avant ?
Ah oui, avant c'était quasiment une fois par mois. Et là, je dois dire que depuis novembre 2019, ça s'est arrêté. Bon, alors peut-être que les choses vont reprendre. Il est possible aussi qu'à un moment, compte tenu de l'évolution du trafic aérien, on a peut-être eu un peu tendance à monter un peu rapidement et un peu facilement dans les avions avec une empreinte carbone qui était quand même pas géniale. Donc, je pense que demain sera pas tout à fait comme hier, mais ceci étant, le commerce, ça reste avant tout des histoires de relations humaines, des rencontres, du partage, et encore plus dans nos métiers, avec nos produits.
Ouais, c'est clair. Bah, t'es obligé de faire découvrir, de faire goûter, de... Justement, est-ce que t'as eu des expériences de dégustation mémorables à l'étranger?
Ouais, il y a un salon que j'aime beaucoup, c'est le Salon des vins de Montréal, qui a lieu tous les deux ans à Montréal, justement, et où j'aime aller parce que, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une journée qui est destinée plutôt professionnelle, et puis après, il y a quatre jours ouvert au grand public. Et ça, je dois dire que c'est vraiment un pays extraordinaire. Et puis c'est vrai qu'avec le Québec, on a des relations, privilégiées. Voilà, ce sont nos cousins d'outre-Atlantique, et c'est toujours un grand moment de joie, d'échange, de partage. Et ça, c'est prévu cette année. J'espère sincèrement pouvoir retrouver le plaisir de ce salon, de cette dégustation, bien sûr. Après, j'ai aussi un souvenir mémorable avec notre importateur aux États-Unis, qui est basé à San Francisco et qui, comme moi, est passionné de mer. Et il a un magnifique voilier. Et on a eu l'occasion de faire une dégustation dans la baie de San Francisco tout en naviguant. Et je dois dire que c'était quand même aussi un grand moment de joie. Et puis, ce sont quand même des moments privilégiés parce que après, il faut aimer bouger, hein, ça c'est clair, net et précis, mais tu dis, tiens, la semaine prochaine, je suis à San Francisco, après je repars à Montréal ou je vais au Japon. Enfin voilà, quand on aime ça, en tout cas, c'est vrai que c'est juste incroyable. Et puis c'est vrai qu'à contrario, quand on est au Japon, les codes, la façon de déguster, c'est très différent, mais c'est aussi passionnant, finalement.
Ouais, c'est clair. C'est clair que ça fait partie des métiers, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais dans lesquels, si tu aimes te déplacer et aller à la rencontre des gens et tout ça, ça fait partie des choses qui sont possibles. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Comment était la Chablisienne quand t'es arrivé il y a 14 ans maintenant? Et quel chemin est-ce que vous avez parcouru de manière générale? Quelles étaient un peu tes premières missions quand t'es arrivé et vers quelle direction est-ce que tu voulais emmener le bateau?
La première des missions, ça a été d'adapter la voilure de ce magnifique bateau à la tempête. Parce que très clairement en 2008-2009, il fallait passer la crise. Donc ça nous a permis de repenser nos organisations et notre fonctionnement. Alors il n'y a pas eu de casse sociale, hein, clairement, on n'a pas été jusque là, et tant mieux. Mais par contre, ça m'a permis de remettre à plat l'organisation en interne, le fonctionnement, de mettre plus de transversalité, et puis petit à petit de faire évoluer cette entreprise, j'irais un peu plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, avec beaucoup d'autonomie. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout dans la culture du codir hebdomadaire où chacun présente ses projets et fait le point sur ses problématiques. Sincèrement, je pense que ça, c'est aujourd'hui quelque chose de totalement dépassé. Bien sûr qu'il faut se retrouver pour partager parce que ça permet à tout le monde d'avoir de la compréhension et ça donne du sens. Et quand le projet est partagé, c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça, il faut le faire 2 ou 3 fois par an. Mais après, il faut aussi laisser de l'autonomie, de la liberté, pour que les gens puissent s'exprimer, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr, il y a des moments où on se voit, mais je suis plutôt dans l'autre sens maintenant. C'est-à-dire que les gens vont me solliciter pour faire un point. C'est pas moi qui vais les convoquer toutes les semaines, mais quand ils ont un sujet, on fait un point, on discute, on décide, on aborde, on avance. Et ça, c'est une bonne chose. Après, je pense qu'on a beaucoup progressé qualitativement. C'est vrai aussi qu'à cette époque-là, y a un nouvel œnologue qui est arrivé avec l'arrivée de Vincent Bartement, qui est toujours là. Je dirais qu'on avait, à mon avis, déjà un très bon niveau qualitatif sur une échelle de 100, j'aurais dit 80. Mais on sait aussi que au-delà de 80, quand on veut progresser, on va gagner entre 1 et 2 points chaque année, sachant qu'on ne vinifie qu'une fois par an. Et donc, on a travaillé sur différents sujets, on a travaillé beaucoup sur la question de l'oxygène dissous, on a remis à plat un certain nombre de process pour gagner en précision, et avec cette culture de la précision, objectivement, je pense qu'on a clairement franchi qualitativement des paliers importants qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas à rougir. Il existe aujourd'hui à Chablis de très grands domaines connus et reconnus, et je pense qu'aujourd'hui, on est somme toute arrivé à un niveau tout à fait comparable, mais avec une particularité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un beau domaine à Chablis va produire 100 ou 150 000 bouteilles chaque année. En ce qui nous concerne, c'est 8 millions de bouteilles. Mais en revanche, du Bourgogne-Chardonnay au Château-Grenouille, je pense que tout le monde y prend du plaisir dans nos produits, que ce soit les entrées de gamme ou les hauts de gamme. Donc c'est plus difficile, parce que avec l'effet volume, il faut pouvoir conserver ce même niveau d'exigence. C'est tout le défi, c'est tout le challenge, mais je pense que celui-ci, on l'a bien réussi. Ça, c'était la première étape, donc sur le savoir-faire. Et puis la deuxième étape, ça a été travailler sur le faire savoir. Donc la communication, le marketing, et puis tous les éléments associés qui ont permis de travailler sur le développement de la notoriété de la Chablisienne. Donc ça aussi, ça s'est fait dans le temps, avec de belles rencontres. On a la chance d'avoir également une très belle équipe qui nous accompagne sur la communication, avec Marie-Catherine et puis son équipe. Ça, c'est vraiment une grande chance. C'est quelqu'un d'extraordinaire dans le sens où, comme elle fait très bien son travail, finalement, c'est elle qui choisit avec qui elle va travailler. Et donc, c'est top parce que, en fait, elle vous fait progresser, quoi. Mmh. Et si, franchement, à un moment, si ça colle pas et si elle en a assez, elle peut aussi vous dire, basta, j'en ai marre et je vous accompagne plus. Mais du coup, avec cette liberté de ton, c'est pour nous quelque chose de très agréable. Et puis, on a aussi travaillé avec des amis champenois sur la montée en gamme au niveau marketing, avec Nicolas Ouchnir, dont je parlais tout à l'heure, sur le côté calligraphie. En fait, on a aussi là fait de belles rencontres avec des gens qui sont des indépendants. À un moment, on avait une structure intégrée. Aujourd'hui, on a une personne au marketing. Mais l'idée, c'est plutôt de travailler avec des extérieurs qui, eux aussi, ont la richesse de voir beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la recette, elle fonctionne plutôt pas mal. Je dirais pas que c'est 3 étoiles, je sais pas quelle note on pourrait se mettre au guide Michelin, mais en tout cas, on a de beaux ingrédients, on a de beaux joueurs, on a de belles compétences, et je dirais que tout ça associé fait que je pense que la Chablisienne aujourd'hui, c'est devenu clairement une belle marque et puis une belle maison de vin. Voilà. Ah, maintenant, il faut pas s'endormir. Hein.
Ouais, c'est clair. C'est quelque chose dont t'as peur?
On l'a toujours en tête, ça. Hein. Après, c'est pas la culture de la maison, quoi. Donc, je pense que ça, c'est ancré. En fait, c'est aussi un autre élément essentiel, c'est que notre métier n'est pas un métier sérieux. Et parfois, dans le vin ou dans les spiritueux, je trouve que ça peut déraper. Nous, on est là pour finalement permettre à beaucoup de gens tout autour du monde, eh bien, de partager des moments de plaisir. Donc, c'est tout sauf sérieux. Et ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est important. Chez nous, on n'a pas de Nolog Star, on n'a pas de commerciaux Star. On a des gens qui sont super pros, qui sont super engagés. Mais l'humilité, ça fait partie vraiment de l'ADN de la maison. Et ça, c'est vraiment essentiel, quoi.
Tu penses que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans le vin, ou en tout cas chez certains domaines, ou dans certaines régions?
C'est possible. C'est possible. Je suis pas là pour polémiquer ou faire quoi que ce soit par rapport à ça, mais je pense qu'il faut pas oublier que, je dirais que ce produit n'est pas un produit indispensable, hein, loin s'en faut. C'est clairement quelque chose dont on peut se passer, et on voit bien dans ces moments un peu difficiles avec la contraction de l'économie induite par la crise que malheureusement c'est possible. Mais voilà, après c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que heureusement il y a aussi de merveilleux contre-exemples avec de très grands vignerons qui sont d'une humilité absolument géniale. Moi, ce qui m'a toujours marqué chez les très grands, c'est la simplicité. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel.
Ouais. Mais je pense que c'est aussi, c'est aussi là où tu reconnais ceux qui sont vraiment, excellents et très grands des autres aussi, tu vois. Je pense que tu peux pas vouloir, faire quelque chose d'important, tout en étant, pas humble ou pas modeste, tu vois. Enfin, ça veut pas dire ne pas avoir une grande vision ou ne pas vouloir faire quelque chose de grand, mais ça veut juste dire, en fait, être sympa, accueillir les gens correctement, discuter facilement, et en fait, enfin, je trouve que c'est le minimum, surtout si tu veux accomplir quelque chose de cool après. Tu nous as parlé un peu plus tôt du réchauffement climatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti de manière très concrète dans les vignes?
Ah oui, malheureusement, depuis quelques années maintenant, depuis 2016, nous sommes confrontés aux conséquences de ce réchauffement climatique. Alors pour nous, le premier impact, en fait, eh bien, ce sont les conséquences de ces hivers qui sont de moins en moins des hivers, hein, puisque tout le monde beaucoup de gens apprécient, en fait, la douceur des hivers que nous venons de vivre. Mais le problème dans nos métiers, c'est que finalement, la vigne, la période d'endormissement de la vigne, elle se réduit, puisque avec l'accumulation de ces températures élevées, eh bien la vigne elle a tendance à redémarrer plus tôt. Et donc du coup, effectivement, quand elle se remet à démarrer autour du 20-25 mars, on se retrouvera après sur des périodes assez longues, avril-mai, où potentiellement elle est très sensible au gel printanier. Et en 2016 comme en 2021, effectivement, on a été très durement touché par des gelées qu'on appelle des gelées noires, en fait, hein, du froid qui descend du pôle Nord et puis qui amène des températures très froides dans un moment où finalement, ben, les bourgeons se sont ouverts, les feuilles ont commencé à se déployer, elles font 2 ou 3 centimètres de long, mais elles sont très sensibles au froid et clairement les conséquences, elles sont catastrophiques en termes de production. Et puis par ailleurs, en 2020, c'était la sécheresse, en 2019, ça a été aussi la sécheresse. Donc oui, nous sommes rentrés malheureusement dans un cycle récurrent d'aléas climatiques qui nous perturbe et puis qui nous préoccupe fortement, oui.
Et est-ce que vous avez des actions justement pour essayer de contrer ça ou d'adapter, ou c'est justement du chaud s'il fait froid, enfin essayer de réchauffer les choses quand il fait froid?
Oui, alors il existe aujourd'hui plusieurs possibilités. Donc dans les grands crus, bien sûr, on va positionner des bougies en fait dans les vignes. Il y a eu de très belles images, hein, qui ont circulé l'année dernière au mois d'avril. Donc ça permet effectivement de protéger. Simplement, les grands crus sur un vignoble de 5500 hectares, ça représente 102 hectares. Donc aujourd'hui, voilà, on peut pas forcément protéger tout le vignoble. Après, il existe aussi maintenant des fils chauffants, il existe aussi des éoliennes. On adapte aussi les techniques de taille, parce qu'on sait que quand on taille assez tardivement, ça peut freiner un petit peu le débourrement et le redémarrage de la vigne. Donc oui, on essaye d'associer finalement plusieurs facteurs, mais la nature va rester la plus forte, hein, malheureusement. Dernièrement, il y a un rapport du GIEC qui vient de sortir, qui est absolument affolant. Je pense qu'on n'a pas tous pris conscience encore de ce qui est en train de se passer. Et il va être grand temps de se mobiliser sur ces sujets, parce que sinon les conséquences, elles risquent d'être catastrophiques. Alors, derrière ce côté catastrophique, moi je reste positif, parce que Avec la pandémie là que nous venons de vivre, on a quand même aussi assisté à, je dirais, enfin, on a trouvé des solutions rapidement quand même, parce que finalement, déployer ces vaccins dans un laps de temps aussi court, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça veut dire que quand on veut se mobiliser sur des sujets essentiels, on peut trouver des solutions. Maintenant, voilà, ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est qu'il y a un magnifique laboratoire qui a fait fortune durant cette crise pandémique, alors que, in fine, tout basé sur le commerce dans ces situations-là, ça peut être quand même un petit peu choquant. Mais voilà, moi j'ai hâte d'entendre la création du nouveau concours Lépine sur tous les projets techniques qui permettront effectivement, eh bien, de contrer le réchauffement climatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. On sait aussi qu'il existe des moteurs hydrogène et que cet hydrogène, on peut la coupler à du développement durable. Je trouve qu'il n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez d'appels à projets, il n'y a pas assez d'ambition. Aujourd'hui, on va privilégier les filières économiques qui existent, et ça se fait au détriment de ces projets, de cette relance. Et je crois qu'il va falloir être ambitieux beaucoup plus rapidement. Et là-dessus, nos politiques ont un rôle absolument déterminant, quoi. Voilà. Il y a un petit bonhomme aussi que je connais bien et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Louis Etienne, que je croise de temps en temps, qui lui est en train de monter un projet qui s'appelle PolarPod. Là, il va recréer une espèce de station flottante qui va tourner autour du pôle sud, justement pour étudier cette zone du monde qui est une zone où on va capter beaucoup de CO2. Mais voilà, on a la chance aussi d'avoir des personnalités absolument incroyables qui sont capables de porter des projets de cette nature. Donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser, capitaliser, trouver des financements et puis des appels à projets dans tous les sens. Voilà. Donc oui, c'est catastrophique, oui, c'est très dur, mais il faut se bouger. Et sincèrement, quand on voit ce dont on a été capable pendant la crise du Covid, si vraiment on le veut, je pense qu'on peut aller très vite et trouver des solutions. Mais il faut bouger, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est un sujet qu'on porte au quotidien avec ma boîte, justement, on est dans la mobilité électrique et clairement, on essaie de pousser le plus loin possible et d'aller vite. C'est clairement notre enjeu. Est-ce que la Chablisienne pourrait faire du vin en dehors de Chablis?
Alors la Chablisienne, non, elle ne pourrait pas, parce qu'en fait, comme elle porte dans son nom le nom de l'appellation, si elle faisait du vin en dehors de Chablis, ça ne pourrait pas s'appeler la Chablisienne. Okay. Donc ça limite un petit peu. Après, notre savoir-faire, il pourrait être transposable dans d'autres vignobles, mais avec d'autres signatures, oui, ça c'est possible.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regardez, justement ?
On a regardé, avant la crise Covid, oui, on avait commencé un petit peu à regarder du côté de la Nouvelle-Zélande.
Ah oui, donc pas du tout à côté de Chablis. Hein.
Pas du tout à côté de Chablis, mais ce qui est intéressant avec l'hémisphère sud, c'est qu'on nous sommes en calendrier inversé, donc là ils sont en train de faire les vendanges, et du coup ça pourrait aussi permettre à nos équipes, eh ben non pas de vinifier une fois par an, mais deux fois par an. Tu vois, par exemple, un œnologue, souvent un œnologue, quand il commence sa carrière, il va être numéro 2 ou numéro 3 dans une boîte, et puis finalement, en tant que numéro 1, il va faire 20 ou 25 campagnes. Et avec un projet de cette nature, ça pourrait permettre non pas d'en faire 20 ou 25, mais 50. Donc ça peut être intéressant. Et puis ce qui était intéressant sur ce pays et ce projet, c'est que c'est aussi un grand bassin de production de vin blanc sec de qualité, avec le cépage Sauvignon, notamment dans la région de Marlborough, dans l'île du Sud. Donc il y a quand même pas mal de choses qui pourraient s'associer, se ressembler.
Carrément. Et du coup, ça s'est pas fait, Covid est arrivé, du coup.
Voilà, ça a gelé des projets, ouais. Et puis les ambitions. Donc là, on disait, ça y est, on va sortir du Covid, c'est bon, on va pouvoir repartir. Et boum, badaboum, il semblerait qu'on ait à nouveau un énervé qui est décidé, autrement pour l'Europe et pour pas mal de pays, hélas.
Ouais, c'est clair. On est toujours un peu dans l'incertitude de où est-ce que ça va mener et surtout à quel niveau ça va s'arrêter, donc, clairement. Après, donc on a discuté de qu'est-ce que t'as fait quand t'es arrivé à la Chablisienne et quelle était la vision et les éléments que tu voulais porter. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition que vous portez, la mission un peu que vous êtes donnée, si tu devais repartir pour 14 ans là maintenant, qu'est-ce que ce serait les prochaines étapes?
Bah clairement, l'idée c'est quand même de poursuivre ce travail sur la montée en gamme, de poursuivre ce travail sur la marque, de poursuivre ce travail de diversification. Tu vois, par exemple, il y a un pays petit pays quand même qui s'appelle les États-Unis, au sein duquel malheureusement nous ne sommes pas très présents.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Donc là, on a, je pense, trouvé la solution pour progresser, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire en termes de développement, en termes de diversification, et puis. On est aussi en train de travailler sur d'autres projets. La marque La Chablisienne va rester dans le secteur traditionnel en France et à l'export. Mais pour la grande distribution, on a aujourd'hui la marque Union des Viticulteurs de Chablis. Et puis, Chablis est au cœur d'un département qui s'appelle Lyon. Et depuis quelques jours, nous sommes les heureux propriétaires d'une marque qui s'appelle Icona et qui a donné le nom à ce département. Et donc l'idée, c'est aussi de développer une nouvelle gamme qui pourra nous permettre de positionner nos vins dans d'autres secteurs, dans d'autres réseaux, avec là aussi un positionnement très premium. Et puis sur la partie amont, bien sûr, on a commencé depuis quelques années, mais l'idée, c'est de renforcer toute la politique liée au développement durable. Hein. Ça, c'est absolument essentiel. Et je pense que de ce point de vue-là, on a encore beaucoup, beaucoup de projets à initier pour passer cette période climatique un petit peu difficile et nous adapter en fait à ces évolutions pour être encore là demain et après-demain quoi. Donc finalement, on se réinvente beaucoup. Après, ce qui est un peu regrettable, c'est que on a quand même un peu l'impression depuis quelques années d'un espèce de jour sans fin où les crises se succèdent sur des thématiques différentes et que voilà, on n'en sort pas quoi. Alors économiquement, on a plutôt bien passé ces périodes, mais c'est vrai qu'on a bien retrouvé un peu plus de sérénité pour se poser un peu plus et puis valider que les projets en termes de projection de développement sont les bons quoi.
Ouais, c'est ça, c'est surtout arriver à se projeter et à se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans.
Ouais,
clairement. T'en as un petit peu parlé du coup sur la partie amont, donc les approvisionnements, les vignerons, etc. Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui? Est-ce que vous allez souvent faire des tours des différentes propriétés? C'est quoi un peu la relation que vous avez avec les...
Bah en fait, on a une équipe aujourd'hui interne à la Chablisienne composée de 3 personnes qui sont là pour les accompagner au quotidien. Une personne qui va les accompagner plutôt d'un point de vue administratif, parce que, comme tu le sais, la production viticole en France est quelque chose de très simple, avec des droits de plantation, avec beaucoup de déclarations, beaucoup de travaux administratifs. C'est vrai que, sincèrement, la complexité administrative, elle est quand même très présente dans nos activités. Donc du coup, voilà, avoir quelqu'un dédié qui va apporter du conseil et de l'accompagnement, ça, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié. Et puis en parallèle, on a également 2 techniciens viticoles qui sont là pour accompagner nos vignerons tout au long de l'année, donc simplement sur du conseil technique. Et ça, je pense que c'est bien parce que, bah d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que depuis, la réglementation a évolué, puisque pendant un temps, souvent, les vendeurs de produits phytosanitaires étaient conseillers et vendeurs, et depuis 2 ans maintenant, la réglementation a évolué et elle demande à scinder les activités de conseil des activités de vente. Donc là-dessus, on a été plutôt avant-gardiste et on va d'ailleurs essayer de développer une activité de conseil aux vignerons plus largement, pas uniquement pour les nôtres, pour apporter de la valeur ajoutée, parce qu'on a aussi la chance d'avoir 2 personnes très compétentes qui connaissent bien leur métier et qui sont très proactives justement sur des nouvelles techniques, de nouvelles idées. Aujourd'hui, on parle aussi de l'intelligence artificielle en viticulture de plus en plus pour le travail des sols, pour la taille. Donc très clairement, je pense que ce sont également des sources d'amélioration avec des empreintes carbone limitées. Donc de ce point de vue-là, il faut être en veille, il faut être à l'écoute, il faut rencontrer des partenaires, il faut voir les startups. Et ça, on a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont bien connectés sur ces sujets-là et qui nous permettent d'avancer, quoi. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis au-delà de tout ça, on a aussi une politique générale hein, avec notre conseil d'administration, notre président. Notre président, il est en conversion bio. Okay. Donc ça, c'est quand même un signal qui est donné à tout le monde. Et puis en parallèle, on est parti, nous, sur le référentiel Terra Vitis qui nous semblait beaucoup plus précis que les notions de haute valeur environnementale en viticulture. Et donc l'idée, c'est progressivement de faire que tous nos vignerons soit certifié Terra Vitis et donc la Chablisienne en intégralité, quoi.
Ok. Et tu vois un horizon pour ça?
Oh, c'est rapide, hein, parce que là, on a déjà bien engagé, donc je pense que l'échéance maximum 5 années, ce sera fait, quoi.
Ah oui, ok.
Donc, oui, on est plutôt pas mal. Après, en développement durable, depuis 10 ans, on a beaucoup travaillé sur nos indicateurs de consommation d'énergie à la cave, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau. Et on a aussi fait de beaux progrès. Voilà, clairement, on n'est pas là pour répondre à des référentiels, pour répondre à des référentiels. On est là, on a vraiment cette culture aussi de l'amélioration continue. Voilà. Et ça, c'est important. Et jamais on va le faire en réaction à quelque chose qui nous est demandé par un client ou par une tendance. On essaye plutôt de se projeter et de rester avant-gardiste. En fait, le premier référentiel en développement durable qui a été mis en place à la Chalvisienne, c'était en 1990 avec AgriConfiance. Donc tu vois, ça commence à dater un petit peu, mais et à l'époque, personne ne nous demandait rien. Et d'ailleurs, ce projet AgriConfiance, à l'époque, il était porté par un jeune qui s'occupait du groupe Qualité et qui est devenu président de la Chalvisienne, et il est resté quasiment une vingtaine d'années. Donc on a aussi la chance d'avoir des hommes de conviction qui nous ont fait avancer de ce point de vue-là. Voilà.
Non, c'est clair. Ultra intéressant en tout cas, et hâte de continuer à découvrir ces évolutions dans les années à venir. Si tu devais conseiller un amateur de vin qui voudrait découvrir Chablis, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment est-ce que tu le guiderais dans cette découverte?
En fait, clairement, ce qui est intéressant à Chablis, c'est que en fait, il existe 4 niveaux d'appellation. Et je pense que sincèrement, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quel que soit le niveau d'appellation, on peut prendre du plaisir, mais pour des moments de consommation différents. Donc, tu vois, tu vas avoir les petits Chablis qui sont sur la zone de plateau, qui sont sur, on est partout hein, sur des sols argilo-calcaires, mais au niveau du calcaire, on a deux grands types. On a du portlandien, donc plutôt sur les plateaux avec les petits Chablis, et puis sur les vallées, sur les coteaux, du kiméridien, donc plutôt Chablis premier cru, Chablis grand cru. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment Chablis, ce qui ressort, c'est ce qu'on appelle nous l'émotion minérale, la minéralité. Et on a des vins qui sont très tendus, très élégants et qui sont des exhausteurs d'arômes. En fait, quand vous allez découvrir un verre de petit Chablis, de Chablis ou premier cru ou grand cru, ce sont des vins qui sont pleins d'énergie et qui vont vous éveiller, qui vont vous donner envie d'en découvrir d'autres. C'est pas saturant en fait, voilà. Après, sincèrement, que ce soit chez nous ou ailleurs, moi, je prends énormément de plaisir à ouvrir une bouteille de petits Chablis simplement comme ça ou avec quelques huîtres. Je suis ravi de boire une bouteille de Château Grenouille avec un magnifique poisson. Mais finalement, quels que soient les niveaux d'appellation et du coup, quel que soit le positionnement tarifaire, on peut prendre beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant à Chablis, c'est qu'on est aussi dans ce que j'appelle, moi, le luxe accessible. Tu vas trouver un petit Chablis autour de 10 euros et un grand cru entre 50 et 60 euros. Donc finalement, ça reste encore abordable. Mettons, tu fais une soirée avec 2 ou 3 personnes. Objectivement, acheter une bouteille de grand cru, c'est possible. Oui. Ça reste encore abordable.
Ce qui n'est pas dans d'autres cas. Avec
exactement. Exactement. Donc voilà, je pense que vraiment tout le monde peut se faire plaisir sur tous les niveaux. Et pour nous, c'est essentiel. Voilà. Clairement, bien souvent, on parle des grands crus, des domaines extraordinaires, des cuvées iconiques. Mais ce qu'il faut faire quand on rentre dans une maison de vin, c'est goûter les entrées de gamme. Si sur les entrées de gamme, la qualité est au rendez-vous, sur le reste, ça va forcément dérouler. C'est quand même plus compliqué de produire 2 millions de bouteilles de petits Chablis que 30 000 bouteilles de grands crus grenouilles. Donc si vous avez réussi cette prouesse technique sur les petits Chablis, bah effectivement sur le reste, on peut assez facilement imaginer que c'est maîtrisé et que les moments de plaisir ils seront là quoi.
C'est clair. Mais écoute, ça fait sûrement partie de la suite de la journée de partir à cette découverte, donc on le fera évidemment avec plaisir. Damien, on a fait un beau tour ensemble de tout ça, de ton parcours et aussi de ce que tu fais ici avec l'ensemble de tes équipes. Donc merci beaucoup pour tout ça. Il nous reste 3 questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander?
Eh bien non.
Ou un livre tout court d'ailleurs.
Voilà. En fait, en revanche, moi je vous invite à lire le dernier livre de Jean-Louis Etienne qu'il vient de sortir pour parler de son projet. Parce que cette notion de développement durable, c'est absolument essentiel. Ce monsieur, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'une très grande simplicité, beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. Et puis en même temps, quand on voit toutes les expéditions qu'il a pu monter, c'est tout à fait incroyable, quoi. Donc voilà, moi je vous invite à lire ce livre, à l'acheter, à soutenir son projet, parce que ce réchauffement climatique, c'est un fléau qui va tous nous impacter Et donc, il faut vraiment se mobiliser, quoi. Et ce projet, c'est un projet important parce que ça va nous permettre de découvrir un peu plus précisément cette zone du Grand Sud autour du pôle Sud et potentiellement de trouver des idées pour lutter contre ce réchauffement climatique. Voilà. Donc, il est sorti il y a quelques semaines et vous le trouverez assez facilement. Voilà.
Ça marche. Eh bien, le message est passé et évidemment, vous aurez la référence dans les notes du podcast, dans l'article, etc. si vous voulez le trouver, vous le procurer. Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente?
Alors, la dégustation coup de cœur récente que j'ai fait, oui, j'ai eu la chance de faire une très belle dégustation à Puligné-Montrachet chez Olivier Le Fleuve. Voilà. Et je dois dire que franchement j'ai été époustouflé par la qualité des vins. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est la finesse du boisé parce que parfois dans certains secteurs c'est un peu excessif. Et je dois dire que franchement ils font un travail remarquable et il y avait notamment un Meursault et des Puligny qui étaient vraiment d'une très grande finesse et avec beaucoup de gourmandise en fait. Voilà. C'était cette semaine, hein, c'était mardi soir, donc c'est tout frais, mais franchement, un joli moment.
Super. Et qui est la prochaine personne que je devrais interviewer?
La prochaine personne que tu devrais interviewer dans le monde du vin?
Oui.
Ça, c'est un peu une colle. Peut-être en Champagne, du côté de chez nos amis de Nicolas Feuillatte.
Ah, ce serait marrant, ouais.
Hein?
Ouais, clairement.
Il y a un directeur général qui se bouge pas mal aussi, qui s'appelle Christophe Juarez. Et en plus, ils ont pas mal de projets, ils se sont bien développés. Il a aussi une belle expérience. Donc, ça peut être une belle rencontre, à mon avis.
Écoute, le champagne, on y allait un petit peu. On a fait, Pierre-Emmanuel Tétanger, ça a été un des premiers que j'ai interviewé dans ce podcast. Je l'ai croisé dans un train, il m'a dit oui, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et puis c'était un personnage aussi, on s'est régalé, on a mangé une pizza après, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai interviewé d'autre? J'ai interviewé Frédéric Zaymet de Leclerc-Briand, là-bas. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Et du coup, ça fait partie des endroits dans lesquels j'aimerais bien aller un peu plus aussi, parce que en fait... on connaît tous le champagne comme quelque chose d'iconique, mais en fait, il se passe des choses. Ah non, j'ai fait EPC aussi. EPC, qui est du coup une nouvelle marque de champagne, mais ultra intéressante aussi. Et ouais, donc je disais, j'aimerais aller beaucoup plus sur place parce qu'il se passe plein de choses et en fait, on connaît un peu le champagne comme un produit générique, mais en fait, le sous-jacent, c'est quand même des histoires qui sont assez incroyables, des personnes qui essayent de faire bouger des choses dans une région dans laquelle c'est pas toujours facile en plus. Donc, voilà, bah, compte sur moi. Je contacterai Christophe de ta part chez Nicolas Feuillatte et je suis sûr qu'il nous recevra très bien juste après. Damien, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Ça fait déjà une petite heure. Ouais, ça fait 58 minutes qu'on échange ensemble. C'est passé vite. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes encore là, c'est que vous avez évidemment aimé cet épisode. Donc partagez-le autour de vous, parlez-en à au moins deux amis, laissez-lui évidemment la note de 5 étoiles, et je vous dis à très bientôt. Damien, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup, c'est passé très vite en fait finalement tout ça, donc c'était un bon moment pour moi également. Merci beaucoup.
Toujours très vite en bonne compagnie. À bientôt Damien, salut.
Ciao.